Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour l'émission Mosaïque. Il y a donc autour de ce micro Alain Martin et Chantal Matelet pour les catholiques, Jean Botvinnik pour les juifs, Catherine Bianchi pour l'Église protestante unie.
Les protestants réformés.
Merci de préciser. Et Alain Genest pour les humanistes. Nous regrettons les musulmans, mais il se trouve que la grippe fait des ravages. Nous commençons notre émission autour de l'actualité. Alors, je crois, Alain, que vous aviez une remarque à faire autour de la diatribe du film de Polanski, J'accuse.
Voilà, c'est-à-dire que toute la semaine, dans les journaux, dans les radios, à la télévision, il y a eu des émissions concernant cette fameuse affaire du film de Polanski, J'accuse. Alors moi, à titre personnel, c'est un film que j'ai vu et que j'ai adoré. Alors, fallait-il défendre le film et le personnage? Fallait-il les dissocier? C'est un problème qui concerne un petit peu tout le monde. Et chacun interprète avec ses arguments. Il y a des pour, il y a des contre. Les femmes se mobilisent actuellement contre les violences faites aux femmes et elles ont raison. Néanmoins, quand on accuse des gens, il faut aussi des preuves, faut aussi des témoignages, des comptes rendus, faut aussi des séances. C'est quelque chose de délicat.
Donc on renvoie les gens à leur conscience. Nous considérons que c'est important que les gens aient la liberté de s'exprimer et qu'on leur laisse cette liberté aux
Voilà,
autres.
on a la liberté de voir un film ou de pas le voir, après tout, pourquoi pas. On a la liberté de venir à une soirée de remise des Césars ou de pas venir. On a la liberté de refuser un prix, etc. Je pense qu'il faut laisser la liberté de conscience aux gens, au lieu de se jeter tous des invectives en disant c'est moi qui ai raison, toi t'as tort, etc. Je pense que la société évolue actuellement, c'est bien de se poser des questions. Et c'est bien aussi de traiter des sujets importants comme cette fameuse affaire Dreyfus qui a secoué la France pendant des années.
Voir aussi le courage de ceux qui ont défendu le capitaine Dreyfus. Et à une époque aussi où l'antisémitisme reprend une certaine vigueur. Donc, nous renvoyons nos auditeurs à leur responsabilité et à leur propre
Jugement,
jugement,
jugement.
merci. Mais il nous semble que l'antisémitisme est absolument condamnable, que l'affaire Dreyfus est quelque chose sur quoi on peut réfléchir quand il y a des questions historiques qui ont autant marqué notre histoire commune, et puis que aujourd'hui, il est important de ne pas juger sans preuve et en tout cas de respecter les personnes.
Il n'y a rien de pire que d'accuser des innocents. Et dans beaucoup de pays, on voit monter des procès contre des individus qui ne sont pas des vrais procès, puisque les gens n'ont pas, les victimes n'ont pas la possibilité d'avoir un avocat ou de se défendre. Voilà.
Et
C'est
chers
pour ça.
auditeurs, on peut préciser qu'Alain Genest est à Amnesty International et que c'est aussi l'honneur de cette association de défendre les victimes. Il y a d'autres questions d'actualité. Catherine.
Oui, juste annoncer le décès d'un grand pasteur de l'Église réformée, Michel Leplay, qui...
Mais dans la même veine, il a défendu largement
Voilà,
les droits de l'homme, notamment en Afrique du Sud.
en Afrique du Sud, et puis il était très pour le dialogue
Contre le racisme.
interreligieux, et notamment Armand Abécassis, qui est philosophe membre de l'amitié judéo-chrétienne, était toujours admiratif parce que Michel Leplay disait Jésus était juif. Et il le pensait vraiment.
La
Il
vérité, c'est que
citait
Jésus était juif quand même.
tout à fait, mais il ne le cachait pas.
Eh bien, moi j'ai deux nouvelles très très intéressantes pour la laïcité, pour notre République. Le 18 février a été publié un document assez extraordinaire par la Grande Mosquée de Paris, sous la signature de son nouveau recteur, qui a été élu le 11 janvier 2020, suite à la démission de Dalil Boubacar, l'ancien recteur. Il s'appelle M. Shemseddin Hafiz. Et il a publié les 20 recommandations pour traiter les menaces qui pèsent sur la société française et sur l'islam. Prévenir les radicalisations. L'islam est conforme aux principes et lois de la République, a-t-il dit. Sa 13e recommandation, j'en ai juste retenu deux, dit que le rôle du croyant se limite à son engagement en tant que citoyen dans le cadre du respect des lois et de l'éthique musulmane pour préserver la paix. Il est lié par un pacte à son pays de naissance, d'adoption ou d'accueil. Et sa 15e recommandation, le racisme, la haine et la diabolisation des personnes sont des délits. La critique des religions et de toutes les croyances est autorisée par la loi. Donc c'est une avancée majeure. Cependant, depuis, M. Shemseddin Hafiz fait l'objet d'une campagne de dénigrement et de médisance directement dans son téléphone. Et le 2 mars, M. Boubaker lui a renouvelé sa confiance.
Donc on voit là que les prises de position conformes aux droits de l'homme et au respect des personnes ne sont pas toujours faciles à prendre.
Un autre événement a eu lieu le 20 février, ça a été la première conférence de 60 imams européens regroupés autour de l'imam Chalgoumi et de Marek Alter, donc juifs et musulmans, pour lutter contre le dévoiement de l'islam radical qui manipule les esprits, attise la haine et ensanglante la planète. Et donc voilà des prises de position qui ne vont pas plaire ni aux frères musulmans, ni aux salafistes, ni peut-être aux turcs.
Oui, mais enfin, qui sont importantes parce qu'elles permettent de distinguer l'islam de ses pratiques les plus rigoristes et les plus extrêmes.
Tout à fait, mais je crois que c'est la première fois qu'on a une prise de position tellement importante de la part d'imams libertaires. Et donc, Chalgoumi, je crois, est gardé en permanence. Hein.
Voilà des choses tout à fait intéressantes et qui vont dans le sens de l'ouverture et de ce que nous faisons ici dans cette émission Mosaïque. Eh bien, l'autre thème pour cette émission, nous avions, à la demande de certains d'entre nous, dit, eh bien, il faudrait clarifier les usages religieux qui entourent les funérailles. Alors, Alain, vous êtes chargé de célébrer ces funérailles à l'Église catholique.
Oui, d'abord, les funérailles, ce sont des moments très particuliers dans la vie. Et chacun d'entre nous, et dans chaque civilisation, on a besoin de rites. Et l'Église catholique propose un rite religieux qui n'est pas un sacrement. Mais donc chaque civilisation, à chaque fois, on a toujours eu besoin de rites. Les gens ont besoin de rites, voilà, pour marquer ce moment assez exceptionnel dans la vie. Quoi, voilà.
C'est intéressant parce qu'effectivement, dans l'anthropologie, on considère qu'il y a hominisation à partir du moment où il y a des rites funéraires.
Voilà.
Il me semble, c'est un marqueur important.
Je voulais juste faire, avant de parler des rites, faire la remarque. Nous sommes trois, dans nos trois religions, à enterrer nos corps religionnaires. Et le judaïsme est fondé sur une éthique religieuse, qui est le service de Dieu, et ne peut se concevoir sans une vigilance à l'égard d'autrui, qu'il soit vivant ou mort. L'attitude traditionnelle envers le mort est appelée « chesed shel emet » en hébreu, ce qui signifie « charité de vérité ». Charité car pur altruisme, de l'accompagner, et vérité, car on n'attend rien en retour.
Oui, c'est vrai, d'un mort, c'est quand même difficile.
Voilà, donc
c'est curieux, parce que historiquement, on parlait des charitons, et c'était ceux qui étaient chargés d'enterrer les morts.
Les charitons n'étaient pas membres de l'Église, c'était...
C'était des laïcs, dont la fonction était, effectivement, d'intervenir au moment des funérailles.
Des obsèques.
Ouais. Mais il dépendait de l'Église, alors, parce que à Mézières, on a justement retrouvé une charte des charitons, quoi. Je croyais avoir compris justement que c'était des gens du village.
Oui, c'était des gens du village, puis qui avaient cette fonction.
À sensibilité catholique, par exemple.
Bien, disons que dans la mesure où pratiquement, quand ça se faisait, c'était l'Église catholique était officielle, entre guillemets, ça allait de soi. Alors c'est vrai, alors du coup, comment ça se passait pour les protestants? Parce que, de fait, dans la communauté de Mézières-Marzosseuse, c'est un des hauts lieux du protestantisme en Eure-et-Loire. Donc est-ce qu'il y a des documents qui évoquaient là-dessus une thématique particulière?
Non, les protestants, d'abord, accompagnent la famille, bien entendu, au moment du deuil, rencontrent la famille, discutent. Quand il y a un service qui s'appelle un culte d'action de grâce, et ce service ne s'adresse pas aux défunts, mais aux vivants.
À la famille qui est...
Aux vivants.
D'accord.
Et dans ce message, il y a trois thèmes. La reconnaissance de ce qu'il y avait de fort, de grand et de beau dans notre relation avec le défunt, et pour dire merci. Et puis l'accompagnement, l'amour de Dieu qui nous invite à entourer notre affection toutes les personnes qui souffrent, parce que nous croyons que les défunts sont accueillis par Dieu dans sa miséricorde et sa grâce. Et c'est pour les vivants que nous prions. Et puis l'espérance, parce que c'est l'annonce de l'évangile de la résurrection pour les vivants. Alors bien entendu, au cours du service, il peut y avoir des témoignages de vie du défunt, que ce soit de la famille, d'amis, etc. Mais voilà, et puis il peut y avoir un accompagnement déjà au funérarium précédemment, et puis ensuite, après le service au temple, au cimetière, avec des moments de prière, et puis quelques chants éventuellement. Ouais. Mais c'est très simple, voilà. Une fois que la personne est décédée, on entoure la famille et on accompagne le défunt selon ses souhaits ou selon ce que souhaite la famille. Simplement.
Dans le rite catholique, il y a effectivement chez nous aussi deux étapes. Il y a une étape où on accueille la famille, et là c'est très proche de ce que Catherine vient de nous dire. On est dans l'empathie, on est dans l'écoute, on est là pour essayer de montrer toute notre sympathie par rapport à l'événement. Et aussi, on invite les gens, quand ils partagent la foi catholique, eh bien de prier pour le défunt, bien entendu. Et je crois que la caractéristique principale au moment de la célébration liturgique, c'est d'annoncer la résurrection de chacun de nous, quoi. Et toute la célébration est articulée autour de cette notion, qui pour nous n'est pas une notion, mais qui est le fond, le cœur de notre foi catholique, c'est la résurrection. Donc la liturgie va se développer à partir de ça.
Et dans le monde juif ?
Dans le monde juif, on va retrouver ces
ces éléments de résurrection aussi.
D'ailleurs, on va accompagner les endeuillés et leur deuil va être marqué au moment de l'enterrement proprement dit par une déchirure de leurs vêtements qui va signifier la déchirure de la peine qu'ils ont d'avoir perdu un être. Oui, on déchire un morceau de vêtement. On peut le remplacer par, et vous allez retrouver le crêpe
oui.
noir que vous voyez, ça correspond à la déchirure que nous faisons, normalement, sur 4-5 cm. Évidemment, on prend un vieux vêtement pour le faire, mais on peut le remplacer par, justement, un morceau de tissu qu'on va mettre, et d'où le brassard. Mais le rite de l'enterrement est surtout fait pour essayer de favoriser le jugement du défunt. C'est-à-dire que les endeuillés et les prières qu'on va leur demander de faire, et la prière centrale qui s'appelle le Kaddish, une sorte de Notre Père, qui est une prière de reconnaissance de Dieu et de ses mérites, car notre tradition nous dit que tout mort ne peut plus rien, plus honorer Dieu, et il doit être jugé de façon à pouvoir bénéficier ultérieurement de la vie éternelle. Il doit être jugé dans l'espace d'une année. Mais il ne peut pas augmenter ses côtés positifs puisqu'il est mort. Et donc c'est au vivant de louer Dieu en son nom. Et donc le Kaddish qui est récité au niveau de la tombe par les endeuillés est un Kaddish, est une prière de louange à Dieu qui va se rajouter au mérite de la personne défunte. Et donc pourquoi ? De façon à pouvoir mériter ultérieurement la résurrection. Et on va retrouver le thème de la résurrection. Et la prière finale, d'ailleurs, de l'enterrement, est quelque chose que je crois j'ai retrouvé. Un jour, la mort sera définitivement bannie du monde. Et l'Éternel essuiera les larmes sur tous les visages. Les morts ressusciteront. Les cadavres se relèveront. La rosée qui les recouvre sera une rosée d'abondance, de vie et de bénédiction. Donc on va retrouver effectivement d'une part l'entourage du défunt, l'aide et le rituel pour le deuil finalement. Après l'enterrement, il est recommandé de manger dans la maison des endeuillés et de manger spécifiquement des olives noires, mais surtout des œufs durs. Parce que ça signifie le cercle de la vie. La mort ne peut plus rien pour les vivants, mais les vivants continuent à l'image d'un cercle, la vie, la mort, la vie, la mort. Et la Torah nous a dit, la Bible nous a dit, on a mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Et donc après l'enterrement, on va manger. Et j'ai trouvé, chose que je ne savais pas, qu'on va manger de la même manière après la naissance d'un bébé, le bébé va boire le lait de sa mère. Il est sorti des limbes, si on peut dire, et on lui donne à boire de la même manière que pour Pâques, pour la sortie d'Égypte. Les Hébreux vont manger du pain azim. On va symboliser toujours la marche vers la vie par le repas avec l'agneau pascal, et donc après la mort de la même manière. Alors, en rigolant, on dit que la religion juive est faite par les mères et par le ventre, par la nourriture.
Est-ce que cette croyance en la résurrection implique par exemple des rites ? Est-ce que la crémation est autorisée dans la religion juive ?
Non, elle n'est pas du tout, elle n'est pas du tout autorisée. De la même manière qu'on va choisir un cercueil particulier en bois, et il ne faut absolument pas de cercueil en métal, parce que le corps, en se décomposant, doit devenir de la poussière, et la poussière doit aller à la terre. Or, si vous avez un cercueil en métal, la poussière ne peut pas se mélanger, donc il y a un certain... Et tout ça parce que... on vient de la poussière, on retourne à la poussière, et à la fin des temps, au moment du Messie, Dieu relèvera les gens de la poussière.
Mais est-ce que la crémation est utilisée ?
J'ai jamais vu de cercueil en métal. Ça existe, ça ?
Bien sûr que ça existe.
Oui. Notamment quand un défunt va
être transporté
dans un autre pays.
Regardez les tombes des pharaons. Vous avez de la pierre, vous avez du métal, il peut y avoir de l'or, il peut y avoir des choses comme ça.
Ça renvoie à des rituels.
Ça doit peser un anneau pour les pauvres gars qui portent ça.
C'est-à-dire que finalement, tu crois à la vie en déposant plein de choses dans la tombe du pharaon, puis voilà. Enfin, je veux dire quelque part, mais enfin bon, ça, on n'est plus autant des pharaons.
Pour la croyance en la résurrection, nous avons normalement 3 prières dans la journée, prière du matin, l'après-midi et du soir. Et dans la prière silencieuse, où on est debout et on doit faire cette prière qui comporte 18 bénédictions, une des bénédictions est qu'on loue l'Éternel parce qu'il va nous ressusciter à la fin des temps et qu'il va nous appeler à la vie éternelle. Ainsi que la reconstruction de Jérusalem, Jérusalem céleste. Et donc, la pensée de la Jérusalem reconstruite mais pas reconstruite forcément par les hommes, hein, mais reconstruite par Dieu. C'est une base fondamentale de la religion juive.
Et de la religion chrétienne aussi, parce que quand on regarde les tableaux religieux du Moyen-Âge, de la Renaissance encore, il y a toujours la représentation de la Jérusalem céleste.
Absolument, parce que Jésus était juif.
La crémation est autorisée chez les protestants,
oui. Oui.
Et chez les catholiques aussi, mais récemment.
Et puis, quelles que soient les conditions du décès, il y a un service au temple.
Ah oui, tu veux dire qu'il n'y a pas d'interdiction si la personne s'est suicidée,
on peut dire que dans l'Église catholique, on est dans la même situation. Sinon, que l'Église quand même n'encourage pas à la crémation, puisque on dit qu'au moment de la résurrection, le Christ est ressuscité avec son corps, et que donc, à l'image du Christ, il est bon que le défunt n'ait pas été incinéré. Mais ceci dit, maintenant, l'Église catholique accueille sans problème la crémation.
Par contre, on n'a pas le droit de disperser les cendres, je crois.
Je pense que si on n'a pas le droit de disperser les cendres, c'est plutôt des règlements qui ont lieu
Il y a une réglementation.
Voilà, c'est plus ça qu'autre chose.
Par respect pour le corps, on ne peut pas mettre les cendres n'importe où. Oui. Parce qu'il y a eu des trucs assez.
Oui, c'est vrai, mais enfin. C'est la loi qui prévoit ça, la loi, les choses.
Ce qui se fait beaucoup, par exemple, c'est de mettre les cendres au pied d'un arbre. Les gens achètent un arbre, ils plantent un arbre, ils mettent les cendres au pied d'un arbre. Non, alors le problème qu'il y a entre l'enterrement et puis la crémation, c'est aussi un problème de coût. Un enterrement coûte cher. Enfin, un décès coûte cher. Donc, actuellement, il y a beaucoup de familles qui se posent la question, qui hésitent entre les deux, qui ne sont pas forcément déterminées sur un enterrement ou sur une crémation, et qui se disent...
ce qui est le moins cher, c'est
On n'a pas forcément un gros budget. Et... Donc là, il faut comparer les coûts, il faut se renseigner, il faut faire des démarches.
C'est ça, donc là,
juste ce que je voulais dire... Je ne suis pas spécialiste du problème. Un décès, pour moi, c'est comme il y a le bateau. C'est comme un bateau qui disparaît à l'horizon. On ne le voit plus, mais on sait qu'il existe. Et on dit que les morts ne sont pas morts tant qu'on pense à eux. Là, ça, c'est mon idée. Alors après, est-ce qu'il faut venir régulièrement sur les tombes, se recueillir vous voyez, chacun a sa démarche personnelle ou familiale. Mais c'est important de penser aux gens qu'on aime toujours, quoi.
Moi, en tant que ayant été aux enterrements de mon père et de ma mère, et l'ayant vécu comme accompagné par l'Église, et ayant eu mes enfants accompagnés aussi, eux ont ressenti accompagnés par l'Église catholique, moi, il y a une réflexion que j'ai eue de la part de mes petits-enfants, un de mes petits-fils qui ne sont pas élevés dans la religion, qui m'a dit « c'est bien, parce qu'au moins là, on vous dit qu'il ne faut pas oublier ». J'ai réalisé avec cet enfant que la crainte dans la mort, c'est qu'on oublie, puisque le mort, on ne le voit plus, qu'on l'oublie. Et mon petit-fils me disant, au moins là, on ne l'oublie pas. Et j'ai trouvé que c'était assez profond, ça. Je pense que les rites ont été mis exactement pour que, d'un seul coup, l'homme est devenu homme et a pensé. Et on n'oublie pas. Et on ne peut pas oublier qu'il a vécu. Et je trouve ça intéressant que des célébrations puissent apporter ça. C'est un certain réconfort. Je pense que quand on est endeuillé, c'est terrible, parce que d'un seul coup, on est déstabilisé.
Il y a une séparation.
Il y a une séparation, et ça nous aide à vivre cette séparation comme quelque chose de... à nous dire, c'est pas une rupture, c'est quelque chose qui va se faire. On est endeuillé pendant un certain temps. Quand on dit faire le deuil, moi, ça me plaît pas, ce genre de choses, parce qu'on fait jamais le deuil. On est toujours séparés. Mais en même temps, il faut vivre ce temps avec...
Et je dirais que parmi les célébrations que j'ai pu faire, au cours de la célébration, j'ai toujours essayé d'associer aussi bien les personnes profondément meurtries par ce départ, que ce soit les épouses, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, soit en mettant quelques chants, quelques CD, par exemple, quand l'assemblée n'était pas très chantante, en sonnant la cloche du temple de Marsauceux, en faisant la quête. Et parce que les enfants, je trouve que les enfants, ils prennent ça en pleine figure. aussi doux soit le message déversé, mais en sortant, quand je les ai vus un peu sourire et détendu et serein, parce que oui, j'étais là pour papy, mamie, bon papa, bonne maman, et je pense que ça a un peu apaisé leur...
D'où l'importance de la présence des gens, y compris des enfants.
Ou ne serait-ce que lire un message, par exemple.
Mais moi, je trouve, effectivement, moi, je suis allée à un enterrement d'une amie qui a été fait hors religion. Alors qu'elle était... il y avait des choses auxquelles elle croyait, elle avait été... Mais sa sœur a dit non, pas question, elle était toute seule. Bon. Et c'était un enterrement à Dreux, vite fait, bien fait, c'était terrible. Moi, j'ai trouvé ça terrible. Terrible parce qu'on n'est pas réconforté. J'avais l'impression d'une infidélité par rapport à elle. Et puis, on est là, debout, et c'est... Alors qu'une célébration, quelle qu'elle soit, même des célébrations qui sont bien faites
dans les
funérariums, très bien faites, où il y a un temps où on se réconforte, et on se sent réconforté, la famille, et ça adoucit. C'est comme si on nous mettait du baume. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est très heureux après, mais c'est quand même important, ce temps où on est entouré, porté, etc.
Dans notre rite, le fait de... D'abord, il n'y a pas de culte des morts, mais les endeuillés, et en particulier les enfants, doivent réciter cette bénédiction, ce kaddish, pendant un an à la mémoire de leurs parents décédés. Et donc pendant un an, ils vont accompagner, comme vous le disiez. D'accord. Ils vont accompagner, et depuis l'enterrement, on accompagne la personne, les personnes mortes, par cette prière, par ce rappel à la grandeur de Dieu, qui va compter au bénéfice du défunt.
Et la prière se fait chez soi ou bien ensemble?
Alors, la première fois, ça se fait devant le cercueil. Bien sûr. Et puis ensuite, ça se fait à la maison, aux dates anniversaires, ou selon l'ordre du deuil, la première semaine, le premier mois, et ensuite toute l'année. Et ça se fait avec un quorum de 10 personnes. Alors 10 personnes qui traditionnellement sont des hommes, mais il y a une grande poussée féminine et que les femmes comptent dans le quorum des 10 personnes juives pour que la prière soit effectivement efficace.
Oui, dans le rituel catholique, je voulais dire qu'il y avait deux choses essentielles. La première, je disais qu'on insistait sur la résurrection parce qu'on dit dès le départ que la mort, c'est un passage. Ce n'est pas une fin en soi, déjà, première chose. Deuxième chose, on cherche aussi au cours du rituel et par les lectures et par les commentaires qui sont faits, on est là aussi pour apaiser les familles, les enfants, les personnes, toute l'assemblée réunie. C'est une autre chose. Et puis aussi de redonner cette espérance que le défunt, eh bien, on va le retrouver. Et on continue à le retrouver dans ce que nous, on appelle la communion des saints, parce que contrairement à peut-être d'autres religions, nous pensons que les défunts continuent à être en relation avec nous par l'intermédiaire de la prière et qu'ils intercèdent aussi perpétuellement pour nous, c'est la communion des saints. Et nous sommes une espèce de liaison permanente entre les vivants et les morts par cette communion des saints. Et autre certitude aussi que nous avons dans notre religion catholique, c'est de dire que Dieu, de toute façon, est le miséricordieux et qu'il accueille de toute façon chacun d'entre nous. Parce que nous sommes chacun d'entre nous un de ses enfants, et que c'est peut-être le défunt qui a du mal à accepter de se laisser aller dans les bras de Dieu, mais c'est pas Dieu qui va le refuser. Voilà.
Eh bien, merci aux uns et aux autres de nous avoir donné ces quelques précisions, à la fois sur la célébration elle-même et le sens que ces rites ont pour les hommes et donc pour chacun d'entre nous. Là-dessus, chers auditeurs, je vous dis bonne semaine à tous, au revoir.
Égalité et respect dans le monde entier. Mieux communiquer et nous respecter.
Tous frères et sœurs, tous frères et sœurs, s'entraider, mais surtout s'aimer, main dans la main.